Alors, vous vous rappelez, on avait étudié une fois une lettre dans laquelle Admour Hazaken se plaignait que les gens qui priaient au Hamoud, ça veut dire le Khazan, vous vous rappelez, on avait étudié une lettre dans laquelle Admour Hazaken se plaignait que le Khazan des fois allait trop vite. Et il avait fait une lettre dans laquelle il a dit que finalement, qu'est-ce qui se passait, c'était un phénomène qui se passait beaucoup. C'est que comme c'était des gens qui devaient aller au travail très tôt, et qui devaient arriver au travail très tôt, donc c'est des gens qui prenaient la place du Khazan un peu de force, de manière à ce qu'ils terminent la tefila le plus tôt possible. Et comme ça, dès qu'ils terminaient, la tefila était terminée, tout le monde partait. Et donc Admour Hazaken s'est plaint de ça. Il avait dit des mots très très durs. Et il avait dit que on doit savoir que si une personne est pressée, eh ben qu'il ne vienne pas à la synagogue, c'est pas grave, ou bien qu'il vienne et qu'il vienne à la synagogue mais sans faire la tefila à Béminyan. Il dit que de toutes les façons, si on est pressé, enfin le minyan, les gens du minyan, ils pensent à lui, lui il pense à eux, et on s'acquitte avec ça. Ouais. C'est pas parce que moi je suis pressé qu'à cause de ça, tous les gens de la communauté doivent souffrir, que c'est pour ça qu'on doit faire une tefila en catastrophe. D'accord ? C'est-à-dire quand on sait qu'on a une urgence, on fait pas la tefila. Quand je sais que j'ai un avion à prendre, je fais pas la tefila, je donne à quelqu'un d'autre de faire la tefila. Et il avait expliqué quelque chose de très important. Il avait dit qu'en vérité, beaucoup de malheurs qui nous arrivent, Dieu préserve, c'est à cause qu'on donne pas de l'importance à la tefila. Ça, il avait dit rapidement. Et ça va être le thème aussi de la dernière lettre. Alors c'est curieux que la dernière lettre du Tania, c'est le mot de la fin du Tania, ça va être autour de l'importance de la tefila et surtout l'importance de ne pas bâcler cette tefila. Alors il va expliquer quand même qu'il y a un juste milieu. Parce que d'un autre côté, quand il y a un chazan qui va trop lentement, si après ça devient, excusez-moi du terme, barbant pour le kahal, dans ce cas-là il y a des halachot. Il y a des halachot qui te disent que tu n'as pas le droit d'être une charge pour le tibour. Donc il faut suivre la majorité du tibour. Mais, ce que l'Admour Hazaken avait expliqué dans cette lettre, il avait demandé... Il avait dit que dans chaque communauté, on prenne une personne qui n'est pas pressée pour aller au travail, et c'est lui qui doit être le chazan. Et que personne d'autre doit être le chazan pour ne pas, chazvé shalom, rentrer dans ce système que c'est celui qui est le plus pressé qui va terminer la tefila le plus vite possible.
C'est pour ça qu'il Alors, est plus intéressant d'avoir
un chazan. Exactement. C'est pour ça que depuis dans beaucoup de Beit Rabbah, enfin pas que dans les Beit Rabbah, dans beaucoup de synagogues, pour pallier à ce problème, on a un chazan. Le chazan, comme ça, il sait fixer personne. Le chazan, c'est sa fonction. Il sait très bien que ça doit durer un certain temps. D'accord, il gère le temps, etc. Et, au Rabba. Donc, le chazan, c'est lui qui gère le temps. Alors maintenant, pour ceux qui étaient là Shabbat, on a parlé du fait de Ocher, Tochher, Tamitecha. Que quand on fait un reproche, vous vous rappelez ce qu'on avait dit?
Ah oui, les
cas. Combien de fois vous faire un reproche? Jusqu'à combien de fois? Jusqu'à 100 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que quand on... D'une manière différente.
Exactement, voilà. Khazak, hein, je vais bah, au prochain. Si, j'étais là, bon, c'est une nouvelle formule, mais ça va, au prochain, ça vient marcher. Donc on a expliqué la chose suivante, Rabotai. On a expliqué que quand on fait un reproche à quelqu'un, si on pense que le reproche va être écouté, si on pense qu'il va pas être écouté, il faut se taire. Mais si on pense que le reproche va être écouté, on a expliqué qu'il faut faire le reproche même 100 fois. C'est-à-dire qu'il faut le répéter. Et tant que tu penses que tu vas être écouté, il faut le faire. D'accord ? Il y a une mitzvah de le faire. Alors, visiblement... Alors, on avait donné des critères, Shabbat, je ne vais pas revenir dessus, on a fait un cours une demi-heure sur ça. On a fait un cours, on a expliqué d'abord comment faire un reproche, en public, pas en public. Est-ce qu'on répète pas? Est-ce que si je fais la même bêtise, je fais pas la même bêtise? Est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est pas mon ami? Beaucoup de critères. Mais de manière générale, ce qu'on a compris, c'est que quand c'est un reproche qui passe, il faut le faire plusieurs fois. Et c'est pour ça, vous avez remarqué qu'il y a, dans les lettres de l'Admour Hazaken, ça arrivait plusieurs fois qu'on a reparlé des mêmes thèmes. À chaque fois, on les a pris avec des angles différents. Par exemple, on a beaucoup parlé de la Tzedaka. On va pas parler de la Tzedaka aujourd'hui. Parce que c'est des lettres. Et quand c'est une lettre, c'est normal que quand un tzadik, il envoie une lettre, c'est pas grave si deux années d'affilée, il va envoyer une lettre qui est sur le même thème, parce que s'il pense que le problème n'a pas été réglé, il faut pas hésiter à renvoyer la même lettre. Donc là, maintenant, le thème par lequel, pas la même lettre. Mais tu prends un autre angle. Comme il a dit Marcel, il a fait remarquer justement, il a dit, ça sert à rien de répéter le même reproche 100 fois. On n'est pas à l'école pour répéter les punitions 100 fois, je ne manquerai pas de respect au professeur. D'accord? Voilà. Bon. Au moins, un professeur qui l'avoue, ça c'est ma chère, ça.
Non, mais voilà. C'est vrai. Il n'y a rien de mieux que le thèse.
Donc.
Il est caché.
Donc, en tout cas, l'Admour Hazaken ici, il va nous répéter, et il va nous prendre un autre angle, l'importance de faire la tefila comme il se doit et de ne pas bâcler la tefila. Parce que visiblement, même après la lettre qu'il avait envoyée, les choses n'étaient pas encore comme il fallait. Donc, on est à la page 324.
On a mis 3 quarts d'heure, 1 heure
pour la... Non, il ne va pas donner de temps. Il fait exprès de ne pas donner de temps. Non, sérieusement, il fait exprès de ne pas donner de temps.
On a mis 1 heure et demie, moi, mais bon.
De manière générale, Admon Razakan dans son Shulchan Aruch, si vous voulez une durée, il dit que normalement, depuis le début de la tefila, c'est-à-dire depuis les brachot, jusqu'à Baruchou, ça doit durer une demi-heure.
Depuis Modéani, tu veux dire ?
Depuis Modéani jusqu'à Baruchou, au moins, il y en a qui disent, bon, c'est marqué d'après, il y en a qui disent depuis les Ketoret, voilà.
Parce qu'à Ketoret, c'est pas possible.
Ça dépend de la vitesse à laquelle vous dites les Ketoret.
C'est possible.
Une demi-heure, c'est le temps que ça prend.
Ouais. Dans un mètre à bas.
Oh, punaise, c'est
vous venez ici par exemple, on prend un quart d'heure ici. Ouais, ici on prend un quart d'heure pour arriver depuis Hodou jusqu'à Ishtabach. Si vous rajoutez avec ça les brachot, les ketoret, etc., vous l'avez la demi-heure sans problème. Et ça c'est le temps de bien prononcer. Sans entrer dans les grandes cavernes, le temps de bien prononcer. Donc une tefila normale doit prendre au moins 3 quarts d'heure. Ah ouais, et avec ces 3 quarts d'heure, c'est rythme.
Ouais,
ça veut dire, j'ai pas mis dedans le temps de mettre les tefillines, d'enlever les tefillines, etc. Ah oui, et les kadish, etc.
Bon.
Alors, dis-le à Admon Razakan maintenant, page 324. Et avec ça, on va finir la lettre. Ocher, tocher, etamitecha. Nos sages nous disent qu'il faut réprimander son ami. A filou, mais a pas mu, que pourquoi la Torah a dit réprimander, tu réprimanderas. C'est une répétition. De là, la Torah, elle t'apprend que tu dois répéter, et que s'il faut réprimander une deuxième fois, ben, il faut le faire. A filou, mais pas mu, même 100 fois. Velazot, c'est pour ça dit l'admon Razaken. Lo ucha leit apek. Je ne peux pas me retenir. Ou le acharish, je ne peux pas me permettre de me taire. Mais ils disent ok, ok, de crier encore. Crier du fond de mon cœur. Bekol anot halusha. Avec une voix qui vient du fond de mon cœur. Bematuta minayru, je vous en supplie. Berachamin nefishin. D'accord? Berachamin nefishin, ça veut dire je vous aime beaucoup. D'ailleurs, vraiment, c'est pas un reproche que je fais pour vous taper dessus, c'est un reproche qui vient du fond de mon cœur, dit l'admon Razaken. Chusuna al nafshotechem. Ayez pitié de vous. Ayez pitié de vos âmes. Veishamru, veizaru me'od. C'est une lettre très particulière, hein. Il y a des termes vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Tania. Veishamru, veizaru me'od. Faites attention. Soyez précautionneux. Me'od, me'od. Très beaucoup. À la Torah, sur l'étude de la Torah. Ve'ala avoda shebalev zotfila. Et sur le service du cœur. C'est quoi le service du cœur? C'est la tfila. Bekavana avec la kavana. Et là, maintenant, dans cette lettre, puisqu'apparemment le message avant, c'est pas qu'il n'était pas passé, mais bon, tu sais, quand tu envoies un premier courrier et qu'on n'a pas compris le message, tu envoies un deuxième courrier plus explicite, c'est comme ça que ça marche. D'accord ?
Détaillé.
Plus détaillé. Ça veut pas dire que le premier n'était pas clair. Ça veut dire que bon,
il a mal perçu.
Quand l'autre a pas bien compris ou fait comme si il n'a pas bien compris, il faut repasser une couche plus explicite. C'est comme ça que ça marche dans la vie.
Ça s'appelle une deuxième relance.
Une deuxième relance, mais plus explicite. C'est pas pour répéter, on n'est pas là pour répéter. Donc, dans cette relance, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je vous en supplie, faites attention à l'étude de la Torah. Et surtout, au service du cœur, c'est quoi le service du cœur? C'est la tefila Bekavana. Alors, c'est quoi la tefila Bekavana? Il donne un critère. Le'atril kulam yachad ke'echad. De faire un effort pour commencer, kulam, tous, yachad ke'echad, tous ensemble. Visiblement, d'accord? Aujourd'hui, il y a moins dans les communautés comme ça, mais visiblement, c'était un problème qu'il y avait dans les communautés à l'époque, que les gens venaient chacun à son heure, et on se disait, bon, on se rejoint tous à Baruchou.
Ou ça soit encore dans certaines communautés.
Non, au moins aujourd'hui celui qui arrive en retard, il sait qu'il arrive en retard. C'est-à-dire on n'officialise pas. À l'époque apparemment, chacun venait quand il voulait, hop, et on se disait bon ben on se rattrape à Baruchou. Quand c'est une fila comme ça, de quoi a l'air la fila? Donc là, Admon Razaken leur dit, vous voulez une fila avec Kavana? Déjà c'est une fila dans laquelle il y a une heure. On commence à une heure précise. Tac. Tout le monde commence ensemble. Mila be Mila. Fila avec Kavana, c'est une fila d'abord qui commence à l'heure. À l'heure dans le sens que tout le monde commence ensemble. Ensuite, mila be mila, mot par mot, sans bâcler les mots. D'accord, c'est pas, il y a pas dans la tefila des mots plus importants que d'autres. Chaque mot est important. Vélo, zébeko, vezébeko. Et pas que un il est en train de faire acheré, l'autre il est en train de faire baruch shamar, et l'autre il est déjà ishtabar.
C'est rien, tu arrives en retard.
Non, t'arrives en retard, t'arrives en retard. Mais quand dès le départ c'est officialisé comme ça. Alors, visiblement, à l'époque, vous savez, je sais pas si vous avez dit en Israël. En Israël, il y a le phénomène des shtibel, hein, pour ceux qui sont en Israël, les shtibel.
La ville, il n'y a pas de l'eau là-bas?
T'expliques,
J'ai oublié d'acheter
du. Alors.
Toutes les cartes, tous les quarts d'heure?
Bah, c'est pas grave, c'est bien, c'est à cause de l'eau.
La production.
Quand tu vas au coton. D'une tonne épaisse,
Oui, mais il y a des, quand
alors, je t'ai bien, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous expliquer ce que c'est un shtibel. Vous savez ce que c'est un shtibel? Un shtibel, c'est un endroit dans lequel t'as plusieurs minyanim qui se passent en parallèle. Un minyan, en fait, il commence la tefila, l'autre minyan il a ishtabach, l'autre minyan il est en train de faire la mida, et l'autre minyan il est terminé. C'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Si tu suis un minyan, ça va. Il y a des gens, Ils peuvent être là que pendant un quart d'heure. Alors qu'est-ce qu'il fait? Tac, 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 tac.
C'est la chaîne de montage. Est, mais,
regardez quand vous allez au côté, vous allez voir. Ma vache. Va au Rattan Club chaque année. Mais il faut suivre une. Dis à la Morazaken, c'est quoi une fila Bekavana? Une fila Bekavana, c'est une fila que tu suis. Tu commences avec le Khazan, tu termines avec le Khazan.
C'est pas possible.
Pourquoi c'est pas possible?
Parce qu'on va pas à la même vitesse.
Oui. Non, je pas compris. J'ai compris. Là, je parle pas des gens qui ne vont pas à la même vitesse. Je parle des gens qui volontairement ne cherchent pas à aller avec le Khazan. Je sais pas être en même temps que le Khazan.
Oui, parce que tu sais très bien qu'il va aller plus vite.
Non, ça c'est marrant. Si tu commences encore une fois, vous avez remarqué, c'est l'issue de Morazaken? Le rabbi d'ailleurs, il faut remarquer. L'Admor Hazaken a dit, commencez avec le Khazan. Commencez. Pourquoi? De là, avec ça, le rabbi, souvent, quand il y avait des gens qui lui posaient des questions dans les lettres, qui lui disaient qu'ils n'arrivaient pas à prier avec le Khazan parce qu'ils voulaient prendre plus de temps pour la tefila. Des fois, on a besoin de passer plus de temps pour la tefila, ou des fois, on estime que le Khazan va trop vite, on a besoin de passer plus de temps. Alors, il disait, ça nous fait de la peine de ne pas faire la tefila béminyan. Qu'est-ce que leur répondait le rabbi? Il leur a amené cette lettre. Il dit, regardez ce qu'il y a écrit dans cette lettre. C'est basé sur Shulchan Aruch. Le plus important dans la tefila béminyan, c'est commencer avec le Khazan. Une fois que le train démarre en même temps, si après il y a un wagon qui va plus lentement que l'autre, c'est pas grave. Le plus important, c'est de commencer en même temps pour avoir du seder, pour avoir de l'ordre.
C'est permis d'amour.
Non. Commence en même temps. Rien à voir. Commencer hodou avec le Khazan. Si t'as commencé hodou avec le Khazan, tu réponds à tout, bien sûr. Même si après toi tu veux prendre plus ton temps, ça appelait à l'article que t'as prié Béminienne. Parce que t'as commencé avec le Minienne.
Juste commencer, pas, t'es obligé de finir.
Le fait de commencer avec le Khazan, à l'article, hein, ça s'appelle prier Béminienne.
Oui, mais après tu t'interromps à chaque fois pour répondre.
Non, parce que moi je vous ai raconté plusieurs fois les exemples que j'ai vus quand j'étais chez le rabbi, de Hassidim âgés comme ça. On les voyait commencer la tefila avec nous, d'accord? Et tu les voyais poursuivre, tu revenais deux heures plus tard, ils étaient encore en train de faire la
tefila.
Ouais, c'était impressionnant parce que des fois on revenait juste pour voir s'il était encore là, et il était encore là. C'est impressionnant.
Et si tu viens en cours de route?
Ah, si tu viens en cours de route, c'est déjà plus compliqué. D'accord. Mais en tout cas, l'Alad Mourazaken, encore une fois, on n'est pas en train de faire un cours de halakha. C'est-à-dire que l'Alad Mourazaken veut pas, on voit pas une lettre pour appeler l'halakha. Il se plaint d'un problème. Il se plaint d'un problème que visiblement, c'est devenu la norme. La norme est devenue comme ça, que chacun commence comme il veut, on s'arrange pour attention pour barrer roue, et après chacun il part comme il veut, etc. Non, ça c'est une fila. Une fila, ça se fait ensemble. Pourquoi? Parce que le fait de le faire ensemble, ça aide à la kavana. Alachiquement, on aurait pu le faire comme ça. Il n'y a aucun problème à l'Alachique de le faire. Si on se rassemble pour Barikou, il n'y a pas de problème à l'Alachique. Mais c'est pas bon pour la Kavana. Pour avoir la Kavana, quand tout le monde est ensemble, on commence ensemble, on termine ensemble, on fait la tefila mot par mot, et on est ensemble, ça aide beaucoup à la Kavana. Il explique. Il dit maintenant, en plus, par ailleurs, vezé de même, vezé massière si ravetela. Quand on fait la tefila, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il raconte les scènes de l'époque. Hein. Donc déjà, ils ne commencent pas tous ensemble. En plus, une fois qu'ils ont commencé, un, il fait quelque chose, l'autre, il fait autre chose. Ensuite, un, il est là, tu le vois, on dirait une pierre, immobile. D'accord? Il fait la tefila, on sait pas. De même, c'est un minéral. D'accord? L'autre, il est en train de parler, mais il est en train de discuter, il fait pas la tefila. De quoi elle a l'air, cette synagogue?
C'est une balague.
C'est comme ça, la synagogue.
C'est quoi, ça? C'est une deuxième lettre, un deuxième courrier qu'il envoie.
Chacun avait, ils faisaient marcher.
Hachem Ishmerenu. C'est le mot de l'Almor Hazaken. Hachem Ishmerenu, que Dieu nous en préserve. Veikar Asiba ou Grama Benizakim. Et il dit comme ça, il dit des mots très durs. Il dit, l'essentiel de la raison, ou Grama Benizakim, de ce qui amène les dommages, c'est-à-dire Dieu préserve les malheurs qu'on voit, ou Mayordim Lufne Ateva, c'est à cause du Khazan qui vient devant la Teva, Sheu Efker L'chol Arotse Lifshod Ragla Vachotef Efrati. Que c'est devenu une position qui est devenue Efker, ça veut dire que chacun prend. Et que, comme on a expliqué la dernière fois, celui qui est pressé, il vient, il prend position, il prend le contrôle du Khazan, et du coup, c'est la catastrophe. Donc, dit l'Admor Hazaken, d'accord, tous les malheurs qui arrivent, c'est à cause du fait qu'on fait pas attention à la tefila. C'est grave, hein, de parler comme ça.
C'est l'anarchie.
Bah, il y a des gens qui sont pressés, qui doivent aller au boulot une certaine heure. D'accord? Donc, comme il est pressé, qu'est-ce qu'il fait celui qui est pressé? Il fait lui le Khazan. Comme ça, il dit, on finira à l'heure que moi je vais terminer.
Ah oui,
c'est des
ça.
Mais c'est des réalités ce que je vous dis. Moi j'ai vu les synagogues comme ça. Hein. C'est des réalités ce que je vous dis.
Non mais maintenant c'est structuré maintenant.
Bon, c'est pas.
Ça dépend. Il y a les synagogues oui, les synagogues non. Ça dépend.
La majorité.
Non, il y a des synagogues dans lesquelles il n'y a pas de Khazan. Pas de Khazan. Non, il n'y a pas. Il y a des synagogues et pas. Des synagogues où tout le monde, sait très bien lire, etc. Et que bon, c'est de temps en temps, chacun qui monte. D'accord.
Comme avant, ben moi, c'est comme avant.
ça dépend en fait. C'est comme ça, d'accord. Donc ce qu'il dit ici, il dit celui qui est pressé, qui doit arriver tôt au boulot, qu'il fasse pas le chazan. Quand tu veux partir, pars et c'est tout. Laisse-le tranquille. Laisse le cas tranquille. Et il dit ici que laissant, parce que du coup contre le chazan il commence et il crasse. Alors du coup personne avec lui, donc si personne avec lui, voilà on arrive à la cacophonie qu'on a ici. Comme on a dit, un il discute, l'autre il est là immobile, l'autre il a Baruch Shama, l'autre il a Ishtabar, l'autre il a Lamida, etc. On sait plus de quoi ça a l'air. Pardon. Oh mechamach en gamechad rotze vechoule. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y a des gens, et là l'Admor Hazaken se plaint, il dit des fois il y a des gens qui peuvent être chazan, qui peuvent être un bon chazan, mais par fausse humilité ils ne veulent pas le faire. Et du coup qui c'est qui prend place? Parce qu'il faut bien faire chazan. D'accord? Les mauvais chazan. Donc là, l'Admor Hazaken, en vérité, il n'est pas en train de taper seulement sur ceux qui sont chazan comme ça. Il est en train de taper sur ceux qui refusent, par fausse humilité, de ne pas prendre la place. Il dit, il n'y a pas d'humilité à avoir dans ces cas-là. Tu sais que, une fois, deux fois, trois fois, tu sais que celui qui va faire chazan, il ne fait pas comme il faut. On te propose à toi, prends la place, fonce!
Tu es obligé de
d'accord
le faire?
Bien sûr. Si tu sais que ça va mal être fait. C'est une fausse humilité. D'ailleurs, Bezrat Hashem, vous verrez que quand on va recommencer Bezrat Hashem, donc à partir de la semaine prochaine, le cycle du Tanya, dans l'introduction du Tanya, l'Admor Hazaken s'adresse aussi aux rabbins de communauté et il leur dit n'ayez pas la fausse humilité de ne pas répondre aux questions des gens qui vous demandent. Des questions surtout de Avodat Hashem, le service divin. De dire non, moi c'est pas mon domaine, il faut aller voir un grand rabbin. L'Admor Hazaken dit il ne faut pas avoir de fausse humilité parce qu'il n'ira pas le voir le plus grand que toi. Il est venu te voir à toi, réponds-lui. C'est important. Il n'y a pas de fausse humilité à avoir. L'humilité, tu la gardes pour un Kadosh Baruch Hu.
C'est-à-dire quoi? Il répond comme il sait?
Tu réponds ce que tu sais. Non, des fois, il y a des gens par fausse humilité, ils disent bon. Il veut pas s'avancer. Ou bon, peut-être c'est une vraie humilité, mais bon, lui, il appelle ça là-bas la fausse humilité. Ou bien des fois, ce qui arrive, comme on a dit, c'est que, voilà, c'est que celui qui pourrait être Hazan ne veut pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, il y a n'importe qui va monter. Donc, du coup, on a une anarchie. Donc, du coup, l'Admor Hazaken se plaint. Après le courrier que je vous ai envoyé, c'est encore pas bon. Donc là, l'Admor Hazaken va donner des conseils. Il va donner plusieurs conseils pratiques et techniques qu'on pourra tous appliquer. Zot aetsa ayeutsa. Il va donner plusieurs conseils. Premier conseil. Vetakanakvua. Je vous demande d'instaurer quelque chose de fixe. C'est-à-dire de faire une takana, d'instaurer. Chok velo yavor. Une loi qui ne devra jamais bouger. C'est-à-dire une loi qui devra...
Un dogme.
Un décret, chazak. Chaz veshalom. Dainu. Livror anashim gvuim aruim lazé. Il demande que dans chaque synagogue, on fasse une réunion et qu'on désigne des personnes qui peuvent être hazan. C'est-à-dire des gens, d'accord, qui vont dire par exemple qu'ils peuvent aller au boulot un peu plus tard, qui peuvent être hazan. C'est-à-dire dans une synagogue dans laquelle il n'y a pas de hazan, qu'on désigne des gens qui peuvent être hazan. Alpi agoral, o beritsu ravaminyan. Alors comment on va choisir ces gens-là? Soit par le tirage au sort, parce que des fois il y a plusieurs personnes qui peuvent être, o beritsu ravaminyan, ou bien par l'accord de la majorité du minyan. Ça veut dire que si une personne peut faire hazan, la majorité du minyan lui dit tu peux faire chazan. Il lui dit je veux pas. L'Admor Hazaken s'adresse à lui et dit écoute, si la majorité du minyan te demande de faire chazan, il faut le faire. D'accord? Et c'est qui les gens qui peuvent faire chazan? Dehaïnou, ça veut dire. Et là, il donne le critère. Shemit paleli, mila be mila. C'est les gens qui vont prier mot par mot, sans bâcler les mots, sans avaler les mots. Bederech hamitsua, dans le chemin du milieu, bekol ram à voix haute. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez que chez les Ashkenazes, c'est pas comme les Sépharades. Chez les Sépharades, on lit toute la tefila à voix haute. Mais chez les Ashkenazes, normalement, ils lisent le début et la fin. Le début et la fin.
Donc,
ouais, et c'est l'Admor Hazaken avait instauré, d'ailleurs c'était comme ça chez le rabbi de Chabad, que le chazan doit faire la tefila à voix haute.
Mais il y a beaucoup de
d'accord.
Moi j'ai dit au Rabbi de Chabad, où j'étais à Chabad, où le chazan, écoute-moi bien, le chazan il faisait comme ça, schéma, et il allait à la fin.
Non, le schéma c'est spécial.
Ouais. Je t'ai pris le schéma, j'aurais pas dû te prendre le schéma.
Ouais.
Il commençait la tête du chapitre, les deux mots de la tête du chapitre, et tu l'entendais à la fin, les trois mots de la tête du chapitre.
C'est permis alors, effectivement.
Sûrement.
Mais là, l'Admor Hazaken, il disait que pour favoriser la kavana du Kahal, il faut quelqu'un qui fasse la tefila à voix haute. Comme ça, instinctivement, les gens le suivent. Les gens sont avec lui.
Puis ça permet
en plus,
ce qu'ils appellent.
Exactement. En plus, c'est sûr.
Bah oui.
Mais là, il parle même pas de ça, parce que là, visiblement, c'était pas le problème. Là.
Oui, d'accord. Avant, c'était, mais aujourd'hui, il y a qui ne savent pas lire.
Ça, c'est clair, ça, oui.
Il faut quitter les gens qui ne savent pas lire couramment.
J'ai dit une fois, avec un. Quand j'ai passé un Shabbat.
Bon, peu importe le chazan. Après, des fois, il y a des chazan qui ne savent pas.
Oh. Mais des gens, qu'est-ce qu'il y a à dire? J'ai tellement leur rythme. J'étais invité chez un rabbin. J'ai dit, écoute-moi, pour moi, viens chez moi.
Mais c'est Chabad ou pas?
Moi, je vais te raconter. Une fois, j'étais au séminaire du Beit Lubavitch à la montagne. On m'a demandé de faire chazan Shabbat matin. Donc, j'ai fait chazan Shabbat matin. Et quand j'ai fait chazan, je faisais pas comme ici que je lis tout à voix haute. j'ai lu le début à voix très haute, la fin à voix très haute, et le milieu, je lisais à voix moyenne, tu vois.
Ouais, un repère, quoi.
Bon, de manière à ce que celui qui est à côté, il peut entendre, mais bon, ceux qui sont loin, ils n'entendent pas. Bon, Laura Vasimov, il était déjà, il peut pas se lever facilement. Il a envoyé quelqu'un pour me dire gentiment, pour me dire, il faut faire tout le chapitre en entier à voix très haute. Que moi, je t'entende. Ça, c'est pas difficile. Mais quand, non, mais Colram. Non, mais j'ai pas pris ça comme un, au contraire.
Non.
Mais Colram, à voix haute. C'est ce qu'il dit ici. Donc, c'est quoi un chazan? D'abord, c'est quelqu'un, comme on a expliqué, qui va être désigné dans le cas où il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être désigné. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Si c'est en semaine. C'est quelqu'un qui prie mot par mot. C'est quelqu'un qui va prier à voix haute. Vélo marichi metamidai. Mais non plus, qui va pas non plus prier trop longtemps. C'est-à-dire, si un jour dans lequel tu veux faire une bonne fila, dans le sens où tu veux faire une meilleure fila que tu fais d'habitude, dans ce cas-là, ne fais pas chazan. Parce que si après tu vas donner un dégoût au Kaal, que le Kaal est là en train de pas tenir, c'est pas bon non plus. Donc ce qu'il dit, c'est le derech hamitsua. Derech hamitsua, ça veut dire le chemin du milieu. Ça veut dire ni trop rapide, ni trop lentement. Vélo mekatsrim vechotvim chas veshalom, et pas chas veshalom, ceux qui vont écourter, parce que vous savez, des fois il y a des gens, bon ça on le fait pas, mais des fois il y a des gens qui sautent. Tu vois, disent, c'est pas grave, on n'a pas besoin, on saute. Non, on saute pas, on saute rien du tout. C'est écrit, il faut le faire. Vechotvim chas veshalom, ou bien des fois, on avale, c'est-à-dire on avale les mots. Non, faut bien prononcer chas veshalom. Va lehem mutal chova lered finateva. Nalad Mourazaken s'adresse maintenant à ces gens-là, qui seront désignés, que peut-être, bon, ça leur prend la tête. Il dit, moi, je vais être dans mon coin, je veux prier, j'ai pas envie d'être le chazan, j'ai pas envie qu'on prenne la tête. Il dit, non. Il dit, vu l'urgence, va aller mutal chova les rails lifna teva, c'est à eux que je demande, qu'ils ont l'obligation de descendre, donc, devant la teva, c'est-à-dire d'être le chazan, kol echad vechad beyumo asher yagi alo, chacun, le jour qui lui aura été désigné. Quand je sais, par exemple, dans beaucoup de Beit Chabad, dans lesquels il y a beaucoup de personnes, des fois, qui ont un chiyuv, qui ont une obligation de monter au... On fait un tour de rôle. On fait un tour de rôle, de manière à ce que... Mais chaque fois, il y a des consignes. Il y a des consignes. J'étais même, des fois, dans des synagogues, dans lesquelles il y avait des consignes, il y avait un temps moyen que les choses apprendre. Quand j'étais à Jérusalem, j'avais vu ça. Ouais. Tu dis, par exemple, la tefila commence à telle heure, temps moyen pour arriver jusqu'à Barrou, ça doit être 15 minutes, ou 12 minutes, ou 13 minutes. C'est-à-dire, ça veut dire que si tu vois que... Tu donnes un temps moyen. C'est bien, c'est bien. Parce que ça peut aider aussi des personnes qui vont un peu trop vite, qui disent, bon, ça va, j'ai dépassé ou c'est important. Donc il dit ici, vele sof elav saviv, kol amit palelim ve kol tzat al kol panim, velo belachash, velo chotvi chas veshalom. Puisque maintenant, on est conscient qu'il y a un problème, que même si le chazan est bon, mais les gens autour, ben, malheureusement, des fois, ils sont en train de discuter, etc. Vous savez quel conseil il a donné? Un conseil très intéressant. Il a dit, le chazan, il doit prendre autour de lui tous les gens sérieux. Les gens sérieux, les gens qui font la tefila à voix haute, d'accord, c'est-à-dire les gens qui vont faire la tefila et qui peuvent le suivre, il est mis autour de lui de manière à lancer le Kaal. Parce que si ces gens-là, ils sont dispersés chacun à sa place, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont noyés par le Kaal. Donc si tu vois que tu n'arrives pas, il te donne une technique et tu lui dis, tu sais ce que tu fais? Tu prends le Kaal autour de toi, 10 personnes autour de toi, et vous faites la tefila, et les autres vont suivre. Quand ils vont voir qu'un gars dit, ils vont commencer à suivre. C'est une technique qu'il donne ici.
Quand on fait le Kaddish, c'est ce qu'on
fait. Exactement. Vekemvoar, betakanat, yeshanot, bekama yarot. Et l'Admor HaZaken dit, je n'ai rien inventé. Les idées que je vous donne ici, je les ai trouvées dans des livres de takanot de plusieurs villages. Des anciennes takanot, c'est-à-dire on a retrouvé des carnets de communauté de plusieurs anciens villages. Et on a vu qu'il y avait ces choses-là qui avaient été instaurées, que le chazan était nommé par la communauté, le chazan était quelqu'un qui n'était pas pressé, d'accord? Le chazan était quelqu'un qui n'allait ni trop vite, ni d'un autre côté trop lentement. Et s'il y avait un problème de bruit, il prenait autour de lui les gens qui savent se concentrer, et c'est comme ça qu'on formait un Kaal petit à petit.
Mais le chazan, il était, comment dirais-je, rémunéré ou c'était bénévole?
Peu importe, là, il n'en parle pas. Je ne sais pas.
La communauté? Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de chazan qui sont rémunérés. Hein.
Pourquoi pas, oui.
Ceux qui ne le sont pas, ils aimeraient bien.
Les fidèles.
Pourquoi pas?
Et d'autres qui le sont. Et t'as raison, d'autres qui le sont pas.
Je pense, les chazan qui sont rémunérés aujourd'hui, en général, c'est les chazan qui ont une belle voix, etc. Bon, qui sert, c'est du travail, ils doivent entretenir leur voix. Donc ça coûte de l'argent pour ça. Alors, c'est ce qu'il dit ici, l'Admor HaZaken.
On a acheté du miel.
Non, il y a attention, il y a des cours, etc. C'est pas facile.
On a acheté du miel.
Donc, c'est ce qu'il dit ici, l'Admor HaZaken. Il encourage beaucoup ces gens-là à être le chazan, comme on a dit, et à faire une fila correcte. En fait, je pense que la logique qu'il y a derrière, c'est qu'il ne veut pas que ceux qui font la tefila Bekavana soient marginalisés. Dans le sens que voilà, si c'est un qui est dans un coin, l'autre qui est dans un coin, l'autre qui est dans un coin, le sens général et le mouvement général de la Keïla n'est pas la tefila. Mais si on va créer un mouvement que ceux qui viennent autour, ils sont en train de faire la tefila, même si autour il y a des gens qui vont discuter, automatiquement on sait que le mouvement de la choule, c'est maintenant on est en train de faire la tefila. Il faut créer le mouvement. C'est comme ça que c'est la technique qu'il donne ici. Et donc il dit, ce que je vous dis ici, je n'ai pas inventé, je l'ai retrouvé dans des livres de Takanot, notre vieille communauté. Ve'ata, maintenant, dit l'Admor HaZaken, bâti les Khatshan ou les Khastan ou les Hamtsan. Je suis venu pour les remettre à l'ordre du jour, pour les renforcer, ou les Hamtsan, et pour les fortifier. Vali motu od leolam chasveshalam, et je demande qu'on garde ces Takanot et qu'on ne les bouge pas. Et là, il dit entre parenthèses, Gewalt, Gewalt. Alors c'est les deux seuls mots que l'Admor HaZaken a dit dans tout le Tania en yiddish.
Ah bon ?
Tout le Tania est écrit en hébreu, on l'a fait le Tania. Dans tout le Tania, les deux seuls mots qu'il a dit en yiddish, Gewalt, Gewalt, ça veut dire, comme on aurait dit en hébreu, oi, oi, malheur à nous. Et une fois dans un Mahamar, le rabbi l'a posé la question, il a dit, mais comment ça se fait que de tout le Tania, il a dit ce mot-là en yiddish ? D'accord ? Et il dit, on voit que chez les gens, dès qu'il y a un mot très très dur à dire, des fois, instinctivement, ils le disent dans leur langue maternelle. C'est-à-dire, il y a des mots, des fois, que quand ça te touche tellement fort, ouais, tu n'arrives même pas à dire dans la langue que tu parles parfaitement, tu le lis dans ta langue maternelle parce que c'est quelque chose de très profond. Et là, visiblement, et c'est grave ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que là, visiblement, l'Admor HaZaken, tellement ça le dérange ce qui se passe, qu'il n'arrivait même pas à exprimer ce mot-là en hébreu, et en yiddish, il dit « malheur à nous, malheur à nous ». Il était perturbé de cette situation-là.
C'est plus impactant aussi.
De le dire comme ça. Peut-être. Bon, en tout cas, c'était plus que parce que c'était sorti du fond de son cœur et que.
Ça va avoir plus impactant. J'ai mis des mots en espagnol. C'est sorti comme ça.
C'est comme si en troisième.
Oui, ça nous arrive à nous quand on est en Israël, quand on est à New York. Des fois, tu peux parler en anglais, en yiddish, etc. Mais des fois, dès qu'il y a un truc important, tu te rends pas compte, tu sors un mot en français. Parce que c'est un mot. Quand tu sors dans ta langue maternelle, c'est-à-dire, c'est quelque chose de très profond. Donc, Gewalt, Gewalt, dit l'Admor HaZaken, Admata, Iye, Zelanu, les Mokesh, jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Velo, Dailanu, Bechol, Atochechot, Vatsarot, Chavro, Alenu. Est-ce que ça ne suffit pas? Toutes les remontrances, tous les malheurs qui nous sont passés, Hashem Ishmerenu, que Dieu nous en préserve. Veinachemenu, Bechiflaim, et qui nous console, Bechiflaim, doublement les Tushia. Veitaer, Libenu, Leovdo, Mehemet, et qui nous aide à purifier notre cœur, les ofdob émet pour servir à Kadosh Baruch Hu avec émet la vérité. Et en un mot, il résume tout là. En vérité, d'où vient tout le problème? Pourquoi on n'arrive pas à faire une bonne fila? Parce qu'on ne la fait pas avec la vérité de notre cœur. On n'est pas dedans. Donc, quand tu n'es pas dedans, automatiquement, tu commences à parler, tu commences à discuter, il y a un téléphone qui sonne, il y a une notification, il y a un SMS, etc. Mais quand tu fais bémet, une fois j'entendais un rave qui a parlé comme ça. Il dit, imagine toi, t'es devant le roi en train de parler. Ton téléphone, il vibre. Tu prends le téléphone pour regarder, voir qui c'est qui t'allumerait.
Non, tu balances, tu les fais attendre 2 secondes.
Tu dis, attends, excuse-moi 2 secondes.
Une
minute. J'ai un SMS.
Tiens, c'est pour vous. Non, mais je pense que ça peut être la reine. Les gens, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent.
C'est la reine.
Les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent.
D'accord.
Je suis pas sûr.
Je pense pas que le problème est là.
Non, parce que je comprendrais ce qu'ils disent.
Quand t'as des barbus comme ça, ils ont le téléphone et ils sont en train de regarder.
Oui, pourquoi? Moi, j'ai vu des gens qui comprennent ce qu'ils disent, il y a comme ce problème là. Je pense que c'est un problème général, mais c'est un problème que tout le monde est concerné par ça. Hein. Parce que il y en a qui sortent le téléphone, mais il y en a qui ont le téléphone dans la tête.
Ouais,
et bientôt, il y aura les Google Glass, là, les lunettes Google. Tu lèves les yeux, tac, ils te donnent l'information.
Ça coûte super cher, en plus.
Tu comprends? Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec tout ça.
Ça existe.
Bien sûr, ça existe.
Ouais, bien sûr.
Il y a une dizaine de paires, en fait.
Je te regarde.
Ouais.
D'accord?
C'est tout.
Il te regarde, il te reconnaît, Serge Siboni, il donne numéro de sécurité sociale, ton compte en banque,
d'un seul. Il y a la Ferrari aussi.
Et il dit, faites un virement tout de suite.
Non, mais ça existe.
Ouais. C'est vrai? Et les pêches de glace,
non, mais bon, c'est dérangeant parce que t'es toujours en fait en train de regarder l'écran qui est collé à ton
nez. Bon, peu importe, après, ils vont faire des autres. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? D'accord, on n'est pas venu parler de Google Glass aujourd'hui. Ce que je vais expliquer par là, c'est quoi? C'est que l'Admor HaZaken nous dit ici qu'en vérité tout le problème c'est quoi? C'est qu'en vérité, pourquoi? Je parle pour nous, pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on a perdu un peu le émet, on a perdu la vérité. D'accord? Quand tu vois un enfant quand il est en train de prier, quand tu vois la sincérité qu'il peut avoir, quand il est en train de faire quelque chose sincèrement, il a un certain émet que nous quelque part peut-être qu'on a perdu. Et c'est pour ça que dit l'Admor HaZaken, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider, Vetaher libenu l'ovdecha be'emet, de purifier notre cœur pour le servir avec la vérité. C'est très puissant dans ces 4 mots-là. Ça veut dire quoi? Pourquoi on n'arrive pas à le servir avec la vérité? Parce que notre cœur n'est pas pur. Notre cœur est souillé avec toutes les bêtises qu'on a dans la tête, toutes les bêtises qu'on a fait. Et donc automatiquement, comme le cœur est pas clean, donc automatiquement, quand tu viens pour faire la tefila, tu viens avec un cœur qui est encrassé. Donc comme il est encrassé, t'arrives pas à vibrer ta tefila. Donc c'est pour ça qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Vetaher libenu leovdecha be'emet. Aide-nous à purifier notre cœur pour te servir, be'emet, avec la vérité. D'accord? Chizku veimtsu levavchem kol amichalim l'Hashem. Et donc il termine cette partie de la lettre avec la bracha. Il dit Chizku veimtsu levavchem, que votre cœur se renforce, kol amichalim l'Hashem, tous ceux qui espèrent pouvoir avancer vers Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, encore une fois, il insiste beaucoup sur le cœur. C'est-à-dire, c'est pas un problème du cerveau. C'est pas un problème de compréhension. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un problème de compréhension. La Morazakan, vous voyez, il insiste deux fois. Il amène deux versets dans lesquels il dit, le problème n'est pas un problème de compréhension. C'est un problème de cœur. J'ai vu de mes yeux des gens qui comprennent rien du tout à la tefila, et tu les vois, ils sont en fond dedans. Ils voient du feu dedans. C'est pas ce qu'ils voient. Ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Je vous ai raconté une fois l'histoire. Je sais pas si je vous ai raconté l'histoire. Une fois, il y avait un rav qui était venu à la synagogue. Et il a vu tous les jours, il y avait un ignorant, il venait avec ses deux enfants, deux garçons, aussi ignorants que lui, oh. Et tous les jours, il ouvrait le sidour, il tombait sur la page du Ezeu Mekoman, et la phrase qui le marquait toujours, c'est « Elou va Elou Nisrafin va Tadachen ». Si je vous traduis, ça veut dire quoi? Les deux brûleront, d'accord? Les deux, c'est-à-dire les deux sacrifices, on parle de sacrifices, les deux brûleront dans la fournaise. Et lui, je ne sais pas pourquoi, cette phrase, elle a marqué. Alors, bon, il savait pas très bien lire, mais il ouvrait le livre et cette phrase l'a marqué. Tous les jours, quand il ouvrait le sidour pour bénir ses enfants. Au lieu de leur dire, etc. Et il ouvrait, il sera fini, il va être à ta chaîne. Et le rabbin, il regarde comme ça. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Il dit, mince, il faut que je lui dise quelque chose, celui-là. La troisième fois, il lui dit, excusez-moi, vous savez, est-ce que vous connaissez la traduction du texte que vous lisez? Il dit, non, je sais pas, ça m'a paru, c'est la bonne consonance, et l'ouvre, 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 l'ouvre. Il dit, mais vous êtes en train de leur souhaiter celui-là et celui-là, ils vont brûler dans la fournaise. Il dit, ah bon? Il dit, désolé, je m'arrête. Cette nuit-là, le rave a fait un rêve. Et on est venu le voir dans le ciel, on lui a dit, sache qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas content de ce que tu as fait. Après, il y a une marque loquette sur la suite de l'histoire qui s'est passée. Il dit, sache que Dieu n'est pas content de ce que tu as fait. Comme l'histoire des pains, ouais, ça ressemble à l'histoire des pains. Pourquoi? Il dit parce que celui-là, c'est vrai que les mots qu'il disait étaient tordus, mais il le faisait avec une telle kavana que pour Akadosh Baruch Hu, il voyait du feu dedans. Pour Akadosh Baruch Hu, c'était la plus belle des pilotes. Toi, t'es venu, tu l'as calmé, maintenant ça y est. Maintenant, le gars, il n'ose plus ouvrir le sidour. Il n'ose plus ouvrir le sidour, il dit, va savoir quelle bêtise je vais raconter encore. Ah oui. Donc il n'ose plus. Et donc, du coup, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content qu'à cause de toi, il a perdu une fille là, que même si tu vas le dire à l'autre, dis le texte, il va rire, etc. Il a peur, il se dit peut-être que je ne lis pas bien, peut-être que tu l'as enlevé le feu qu'il avait. D'accord? Donc de là on voit quoi? De là on voit ici que l'important, c'est pas un problème dans le cerveau. Quand on n'est pas à fond dans la tefila, c'est pas un problème du cerveau. Parce que des fois il y a des gens qui comprennent rien, qui sont à fond dedans. C'est un problème du cœur. Que plus le cœur est souillé, et plus quand tu viens à un cours, quand tu viens à la tefila, tu sens que ça décolle pas, tu sens que t'es encrassé. Quand t'es encrassé, ça marche pas.
Alors, c'est... Il y a un truc avec ce que tu viens de dire, oui. Un truc que j'arrive pas à comprendre. Vas-y. Par rapport à il y a deux ou trois cours.
Oui.
Il y a deux ou trois cours. En fait, on est dans le monde de l'action.
Oui.
L'action, aujourd'hui, c'est l'action avec la bouche et avec les mots tels qu'on les dit.
Mm-hmm.
Donc, autrement dit, si on agit, aujourd'hui, avant, c'était avec les corbanotes et tout ça. Nous, aujourd'hui, les corbanotes, c'est la tuila.
Oui.
La tuila, c'est l'action. La tuila, c'est voilà. Pas dire la tuila dans cette lèvre, mais avec la bouche.
La bouche, oui, chazak, oui.
En remuant les lèvres. C'est ça qu'on fait l'action.
Chazak, bien retenu, oui.
Maintenant, quand tu dis, quelqu'un, il parle et il dit quelque chose dans il dit quelque chose qui n'a rien à voir, il veut bénir, finalement, au lieu de le bénir, il dit des mots
pour que,
a priori,
pas.
Ce soit le contraire. Tu nous as dit, il y a deux jours ou il y a trois jours, quelqu'un qui pense qu'il fait la tefila avec Kavana, mais il ne dit pas les bons mots, et ben,
c'est pas bon.
Problème.
C'est vrai, c'est pour ça que le rabbin l'a repris, parce que c'est pas bien ce qu'il faisait, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, ce qu'il y avait de particulier chez cette personne-là, c'est qu'il avait une certaine sincérité. C'est qu'il a ouvert le livre et c'est venu de son cœur. Il y a une phrase qu'il a marquée et avec ça, il bénissait ses enfants. Ça venait de son cœur. Ça, quand on l'a repris, ça peut plus venir de son cœur. Maintenant, il va se mettre à réfléchir. Quelle phrase je vais lire? Oui, bien sûr, c'est un cas particulier. Mais c'est un cas particulier pour nous montrer quoi? Pour nous montrer qu'en vérité, quand on n'arrive pas à vivre cette fille-là, le problème n'est pas dans la tête. Le problème est dans le cœur. Et c'est pour ça que dit l'Admor HaZaken, quand on a un problème comme ça, qu'il y a des synagogues entières dans lesquelles les gens, ils viennent à la synagogue. Tu viens déjà à la synagogue. Tu passes 3 heures, 4 heures à la synagogue. Tu viens samedi matin. C'est dommage. Tu aurais pu rester dormir, tu te serais levé à midi, tu aurais eu un bon repas. Tu es venu à la synagogue, tu as fait l'effort. C'est dommage de gâcher. C'est vrai, tu aurais pu rester à la maison de dormir sans problème.
Je ne me chauffe pas.
D'accord.
Il adore faire les siestes.
C'est vrai. Tu as fait un effort. Tu es venu à la synagogue. D'accord, tu t'es levé, tu as marché dans le froid, tu es arrivé. Fais un effort, tais-toi. Tu as toute la semaine pour parler. D'accord, c'est l'Admor HaZaken ainsi sur ça ici. Donc, Donc c'est ce qu'il dit ici Al-Morazaken. Donc l'importance du chazan, l'importance de faire la tefila ensemble, l'importance de faire la tefila à une vitesse moyenne, d'accord? Et l'importance, comme on a dit, que ceux qui prient la tefila se rassemblent ensemble. De manière à ce que si on voit qu'il n'y a pas l'ambiance de faire la tefila, on se rassemble ensemble, d'accord? On m'a dit que dans beaucoup de synagogues, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, quand il y a beaucoup d'ignorants des fois, il y a beaucoup ce qu'ils font dans les synagogues, c'est qu'autour de la teva, ceux qui savent prier viennent autour de la teva. Comme ça, c'est eux qui créent l'ambiance. Et après, les autres, ils suivent par derrière. Mais ça crée l'ambiance. Parce que sinon, si chacun est dans son coin, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, du coup, on vit pas la teva.
Moi, j'ai vu ça pour Kippour.
Alors, Gam, autre technique qu'il donne à Admor Hazaken, pour, autre technique qu'il donne ici, pour justement, aider un petit peu le Kahal, aider un petit peu le Kahal, comme on a dit ici, à s'améliorer dans la teva. Ligmor, kol hashas b'chol shana v'shana. Une autre technique qui apparemment n'a aucun rapport, mais en vérité un rapport très profond, c'est que dans chaque communauté, on s'efforce de terminer le chasse. Le chasse, d'accord, c'est toute la Gemara. Alors, normalement, la Gemara, chacun devrait étudier toute la Gemara dans sa vie, au moins une fois. D'accord? C'est jouable, hein? C'est pas...
On
a une longue vie, mais c'est jouable. C'est jouable, ça, on peut le faire. Seulement, comme on est conscient que... Après, au bout d'un certain temps, on n'est pas au collège toute la journée, donc on n'a peut-être pas le temps. Alors, dit l'Admor Hazaken, il demande quelque chose. Il demande que dans chaque communauté, on termine le chasse une fois par an. D'accord? Chez les Chabad, on le fait. Là, si vous allez, par exemple, ce jeudi soir, Yutet qui se lève là-bas à la mutualité, quand je vous ai envoyé le SMS tout à l'heure, eh ben, vous verrez qu'à l'accueil, il y aura un stand dans lequel on distribue le chasse. Il y a plusieurs chasses qui sont distribuées comme ça.
Ah ouais?
Oui. C'est-à-dire, chacun, il prend une masserette. Il y en a qui peuvent pas prendre une masserette. Il dit, je prends 10 dapines de telle masserette, 20 pages de telle masserette, 20 pages de telle masserette.
D'accord? Quand ils distribuent.
Exactement, les... exactement. Mmh. Moi, je prends chaque année une masserette. Toujours. Et chaque fois, je prends une autre. De manière à ce que, et ça, comme ça, grâce à ça, pourquoi c'est très important, ça? Parce que grâce à ça, chaque année, c'est considéré comme tu fais partie d'un kahal qui a terminé le chasse, c'est comme si que toi aussi t'as terminé le chasse. C'est un mérite global. Donc c'est... Et ça, c'est un conseil qu'avait donné l'Admor Hazaken ici. Un conseil qu'il avait donné, pourquoi, n'oubliez pas, comme il s'était rendu compte que le problème qu'il y avait, c'est quoi? C'est que chacun priait de manière individuelle dans les synagogues. Donc il faut augmenter la cohésion dans les synagogues.
Fédérer.
Donc fédérer dans la prière au travers du chazan, mais fédérer aussi au travers d'autres actions, notamment au travers de l'étude. Le fait que, par exemple, on sait qu'ensemble, on a appris chacun quelque chose, on a assisté ensemble à un cours, on a ensemble, chacun a fait un tehilim, chacun a fait quelque chose, et ensemble, on a terminé quelque chose, eh ben, ça fait qu'on sent qu'on fait partie du même projet. Donc, en d'autres termes, il encourage les projets communs, donc après, avec ça, chacun peut utiliser son imagination, il encourage les projets de construction, les projets d'études communs, pour augmenter la cohésion communautaire, et grâce à ça, se sentir plus unis, et donc, automatiquement, quand on fait la tefila, eh ben, c'est naturel qu'on la fait ensemble. Et pas chacun, il a fait de manière égoïste, séparément. On a vraiment des conseils très techniques. Ve'ir she'eshba minyanim arbe, des villes dans lesquelles il y a plusieurs minyanim, comme Baruch Hashem à Paris, qu'on est Baruch Hashem beaucoup de Chabad, donc c'est pas une fois qu'on fait le chasse, eh ben, igmeru bechol minyan ou minyan, alors, on va compléter dans chaque minyan. D'accord? Chaque minyan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme explique le commandant, ça veut dire qu'on finira plusieurs fois le chasse. Ah, si vous allez voir, c'est très curieux, vous allez voir, au stand là-bas, le nombre de chasses qui sont terminées. Je sais pas combien de dizaines qui sont terminées de... Chacun, il prend une masserette, et quand tu vois chacun qui passe...
Mais la masserette, elle est qu'en hébreu ou en français hébreu? Ah,
non, tu prends sur toi de l'étudier. Par exemple, je prends sur moi d'étudier le premier chapitre de Brachot. Il y a un stand. Je prends sur moi d'étudier le premier chapitre de Brachot. Il y a un deuxième qui vient et dit, moi, je prends le deuxième chapitre de Brachot. Il y a un deuxième qui dit, moi, je prends du troisième chapitre jusqu'à la fin.
Ah, comme ça, ça se passe.
Ouais. Il prend ton numéro de téléphone, et dans l'année, il t'envoie 2, 3, 4 appels. Il y a un responsable pour ça, pour te dire, voilà ce que tu as appris, où tu en es. Enfin, pas pour te demander où tu en es, pour te rappeler, quoi.
Franchement,
ça, c'est sympa.
Eh oui.
On compte sur toi.
Non, franchement, c'est bien.
C'est important.
Bon, excusez-moi, il y a un cours de Gemara le dimanche matin qui est vraiment...
Merci.
Non, ça permet de...
D'accord.
De faire un...
Ah,
bien,
toi, bonsoir. Azak.
Non, je t'écoute. Il parle de
donc,
en
fait. Gam, Ezeminian.
Quel jour, l'année?
Fais attention, il va te mettre à la page, là.
Vegam. Donc, vous avez compris le concept. Le concept, c'est que quand on s'unit au travers de projets communs, c'est ce qui augmente la cohésion communautaire, et donc c'est un conseil qui est donné ici. Vegam. Im, pardon, ezeminian, katan meachil. Si un minyan qui est trop petit, c'est-à-dire, par exemple, des fois, à l'époque, il y avait des petits villages, dans lesquels, même si chacun, il va mettre le paquet, ils pourront pas finir le chasse. Ils peuvent pas, ils sont 10. Ils peuvent pas, ils travaillent. Alors, dans ce cas-là, yetzarfo aleem, Anashim et Zeminyan Gadol, ils peuvent s'associer avec un plus grand minyan. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, et des shluchim, aujourd'hui, qui sont dans différentes villes dans le monde, dans lesquelles, bon, malheureusement, ils n'ont pas encore des communautés qui peuvent finir le chasse, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'associent avec le 770. Le 770, vous avez une liste avec des noms écrits en tout petit, d'accord? Et des listes, un tel de telle ville, un tel de telle ville, un tel de telle ville, et comme ça, t'as des listes. Et c'est affiché, et c'est mis à jour, et chaque année, ils le remettent, et c'est coché. D'accord? À l'arrière du 770. Non, sur un... C'est un grand tableau, je sais pas, qui fait au moins de, voilà, depuis là, jusqu'au plafond. Grand comme ça. Après, t'as des gens qui viennent, qui rajoutent à la main. Ils rajoutent un tel de telle ville, après tel maseret, un tel de telle ville, après tel maseret. C'est ça? Ça, c'est le morazakin qui avait demandé. Donc, Bebal Yishune Chok Velo Yavor. Et il dit, c'est quelque chose qu'il insiste beaucoup. Il dit, il faut terminer le chasse. Donc, il faut que les chassidim terminent le chasse. Chaque année, Chok Velo Yavor, comme tout à l'heure vous avez dit, Chok Velo Yavor, c'est-à-dire, c'est un décret, une loi. Vechol Echad, Vechad Balamdi Manalm. Autre technique. Chacun de ceux qui va étudier le chasse, donc c'est-à-dire chacun des membres de la communauté qui va étudier une maseret de chasse, grâce à ça on va terminer, comme on a dit, tout le chasse. Igmor le Atzmo, il essayera de terminer pour soi-même, Bechol Shavua, chaque semaine, à Tamnia Ape, Shebete Ilim, Perek Kufutet. Il essayera de terminer le psaume 119. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le psaume 119? Dans le psaume 119, il couvre toutes les lettres du Alephbet, et pour chaque lettre du Alephbet, il y a combien de versets?
8.
8. Azak.
C'est un pro de Teilim.
Il les connaît par cœur maintenant.
David,
alors, une fois, leur ami précédent a posé la question. Il a dit, mais quel rapport? Quel rapport entre ceux qui étudient la Gemara, on leur demande de faire, chaque semaine s'ils peuvent, le psaume 119? Quel rapport entre les Teilim et la Gemara? Et il avait dit comme ça. Il a dit que de là, on voit que quand est-ce que l'étude de la Gemara est parfaite? C'est quand, suite à l'étude, on fait Teilim. D'accord? Ouais. Et pour faire Tehilim correctement, il faut étudier. Et pour étudier, il faut faire Tehilim correctement. C'est-à-dire que l'étude et le Tehilim, c'est une boucle. C'est-à-dire qu'une personne qui pense, c'est très puissant ce qu'il dit ici. Il y a des gens qui pensent, ils disent, moi je suis quelqu'un, j'ai que la Gemara, moi, Tehilim, etc. Bon, c'est pour les gens, c'est pas pour moi, c'est pas ma cam.
Non, c'est pour les Marocains, les Tehilim.
Ouais. Bon, j'ai pas dit ça, mais voilà. D'accord? Et ça, le rabbi précédent a dit, c'est pas par hasard que dans la même lettre dans laquelle il te dit de faire le chasse, c'est ceux qui font le chasse qui terminent le Tehilim. Enfin, qui termine le psaume 119 chaque semaine. Pourquoi? Pour te dire, une vraie Gemara, c'est une Gemara qu'après tu fais un Tehilim. Et pour faire un vrai Tehilim, tu fais une Gemara après. C'est un cercle. D'ailleurs, ça c'était avant que le rabbi précédent avait instauré de lire le Tehilim une fois par mois. D'accord? Donc à cette époque-là, c'était pas instauré. Donc c'est pour ça qu'il a dit que chacun lise le psaume 119. Et le psaume 119, on l'appelle le petit Tehilim. D'accord?
Ah, quand même.
Mais après, oui. Ah oui, parce que c'est un Tehilim qui est très concentré, chaque verset est très concentré, c'est un condensé. Mais ça c'était avant. D'accord, ça c'était avant.
Comme la pub, c'est ça?
Ça c'était avant.
Avant j'étais moche.
Mais après, le rabbi précédent, ça fait pratiquement un siècle, ouais, aujourd'hui. Ouais. Ça fait un siècle, il avait instauré le concept du Tehilim, de terminer le Tehilim une fois par mois. Donc comment on fait? D'ailleurs maintenant, aujourd'hui, ça a été édité dans beaucoup de Tehilim, la majorité des Tehilim ça a été édité. Donc le Tehilim est découpé en 30, et chaque jour on fait quelques Tehilim, c'est entre 7 et 9 Tehilim.
Bah, c'est le 15e jour là.
Entre 7 et 9 Tehilim.
Le 119 il est coupé en 2 jours.
Voilà, c'est pas très long, il faut compter 4-5 pages de Tehilim par jour, et chaque mois tu le termines.
C'est ça.
Tu mets un peu d'effort, chaque mois tu termines le Tehilim. C'est quelque chose qui est jouable. Alors, un mois dans lequel il y a 29 jours, parce que chez nous, on a des mois de 29 et des mois de 30. Dans ce cas-là, le 29e jour, on lit le 29 et le 30. Mais bon, le 30e jour, c'est la Shrei, je vetera, les Alléluia, etc. Donc, c'est du gâteau. D'accord? Donc, c'est facile. Et ça, c'est l'admorazak. Ça, c'est le rabbi précédent, pardon, qui avait instauré. Et encore une fois, le rabbi précédent avait expliqué qu'une vraie personne qui a compris ce que c'est l'étude, c'est celui qui, après avoir étudié, il ouvre un Tehilim. C'est pour comprendre.
Il a compris qu'il s'arrête jamais. Non, mais
exactement. Il a compris que pour bien comprendre, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il a compris que Tehilim et l'étude, c'est une seule chose. C'est pas un, c'est pour les gens simples et l'autre, c'est pour les gens importants.
Mais
non.
Ton père, il avait dit je sais plus quand est-ce que c'était, que lorsqu'il y avait un minyan qui lisait simultanément le Tehilim entier, en comprenant avec Kavana, ça accélérait la venue du Mashiach.
Ah, ça c'est clair, amen, ouais.
C'est ce qu'il a dit, hein.
Moi, j'ai vu de mes yeux quand j'étais à la yeshiva, je me rappelle. Il y avait une fois des jeunes hommes qui revenaient d'un endroit. Ils étaient partis chez un rav de la yeshiva pour il leur avait fait un shiur chez lui à la maison, fabriquer chez lui à la maison. Et après, ils étaient revenus. Et dans le chemin de retour, il y avait eu, je sais pas, un pneu qui était crevé, etc. Je sais pas quoi. Il y avait eu un accident. La voiture s'était cognée contre un arbre, bon, du préserve. Et il y a un des bachouri yeshiva qui était dans le coma. Et les médecins, ils disaient qu'il n'allait pas s'en sortir. je me rappelle comme aujourd'hui, que la rabbanie de la yeshiva avait demandé de faire des chaînes de Tehilim non-stop. Mmh. Même la nuit. C'est-à-dire constamment avec quelqu'un qui disait Tehilim. À la yeshiva, hein, pas au... on peut pas aller à l'hôpital. À la yeshiva, constamment, il y avait des chaînes. C'est-à-dire celui qui terminait à 2h du matin, réveillait l'autre, et de 2 à 3, 3 à 4, 3 à 4, etc. Et je me rappelle, j'avais gagné le goral pour aller chez le rabbi. C'était juste après. C'était Yudjvat. Et le rabbi m'avait dit, quand tu vas aller chez le rabbi, essaye de lire un maximum de Tehilim dans le Ohel du rabbi. Et j'étais parti au Ohel du rabbi. C'est très très froid. C'était un hiver dans lequel il devait faire moins 15 ou un truc. C'est vraiment très 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 froid. Et le Ohel du rabbi, on est sur des pierres. En plus, on est pieds nus. Enfin, pieds nus, je vais pas avec les chaussures, avec des. Et je me rappelle que bon, comme le rabbi m'a dit, bien sûr, en plus, c'était quelqu'un que je connaissais très bien. Alors, j'étais resté au Ohel. Et j'étais resté 3 heures comme ça, frigorifié. J'avais les pieds congelés, je les sentais plus après. Et je me rappelle quand je suis sorti, j'ai appelé à Bruno à la yeshiva, et ils m'ont dit, il a ouvert les yeux. Ah, alors, c'était un début. Bah, au Hachem aujourd'hui, c'est un jeune homme qui s'est marié, et c'est un jeune homme qui, il y a encore des petites séquelles, bon. Mais c'est un jeune homme qui s'est marié, qui a des enfants, qui a repris sa vie, etc. Mais c'est un miracle que j'ai vu de mes yeux, ça. Un miracle, les médecins, ils disent, c'est terminé. Alexander, ça se rappelle pas. C'était un miracle énorme. Mais pendant des mois, toute la yeshiva vivait avec comment il va et qu'est-ce qu'il devient. Il y avait des hauts et des bas, comme vous savez, comme on est à l'hôpital, c'est bon. Voilà. Pour montrer, pour, ça c'est pour rejoindre ce que tu as dit, la force de Tehilim. Force de Tehilim.
Alors, qui c'est qui veut Tehilim, là?
Alors. Ah, mais le Rav, il avait dit non-stop les Tehilim. Et je me rappelle, on se réveillait la nuit, etc., à tour de rôle. Et, bon, c'est comme ça. Donc, il dit ici la de Mourazaken. Donc, on a donné plusieurs techniques. Donc, la cohésion communautaire, au travers déjà de la prière qui est lue ensemble, au travers d'un projet commun dans l'étude. Donc, c'est le chasse qui va être étudié ensemble. Au travers, également, on a dit des Tehilim que chacun va lire. Et quand tu sais que chacun a lu les Tehilim, eh ben, c'est une manière aussi de s'unir. En passant, vous savez que quand le rabbi avait lancé le projet du Rambam, qu'on fait tous les jours le Rambam ici, la mitzvah du Rambam, oui. Et en vérité, ça correspond aussi à chacun qui étudie tous les jours trois chapitres de Rambam. Le rabbi avait expliqué qu'une des raisons pour laquelle il avait instauré ça, c'est parce que comme ça, il y a une multitude de Bnei Israël qui étudient tous les jours la même étude. Et il avait dit, il n'y a pas de plus grande unité de ça, c'est un peu comme le Daf Yomi. Il n'y a pas de plus grande unité que ça, de savoir que tu as une multitude de gens qui étudient ensemble, le même jour, le même texte. C'est un peu ça, comme le Tehilim qu'il y a ici. Tout le monde va lire le Tehilim. Quand je sais que moi aujourd'hui je vais lire le Chumash et qu'il y a des millions de personnes, merde, je sais pas combien, qui vont lire le même Chumash que moi, qui vont lire le même Tehilim de la même journée que j'ai lu, qui vont lire le même Tania que moi, c'est une force énorme. C'est-à-dire, imaginez toute cette filotte qui va ensemble chez Akadosh Baruch Hu. C'est une force énorme. Il dit maintenant, Velazot, Veliot, Mechamat, Relishut Ador. En Korb, Kolechat, Vechal, Etanot, Karawilo. Maintenant il dit comme ça. Il dit, vous rappelez, ça fait quelques années, on avait étudié Igeret et Teshuvah. Dans Igeret et Teshuvah, qu'on reviendra Bezrat Hashem dessus dans quelques années, on avait expliqué, qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand on faisait une faute, on amenait un korban. Après, les fautes, les korbanot ont été remplacés par les jeûnes. Après, les jeûnes ont été remplacés par la tzedaka. On avait expliqué que même aujourd'hui, comme ça il avait dit, celui qui peut jeûner des demi-jeûnes, selon le Harizal avait donné un nombre de jeûnes. Par exemple, celui qui s'énerve, on avait dit, il doit jeûner la même valeur numérique que le nombre kas. Kas, c'est quoi? Kaf, Aïn, Samer. Accrochez-vous. Kaf 20, Aïn 70, Samer 60. Ça fait combien?
Beaucoup.
55 ans. C'est énervé, il y a une crise.
La moitié de l'année.
Là, c'est le Harizal qui dit ça. Alors, il dit à l'Admor HaZaken, là-bas, déjà l'Admor HaZaken, il avait dit qu'aujourd'hui, personne ne peut gêner autant de jeunes. Alors,
c'est pour ça qu'il a maigri.
L'Admor HaZaken, il a dit, là-bas, que personne ne peut gêner autant de jeunes. Alors, puisque personne ne peut gêner autant de jeunes, alors ça veut dire, comment on peut demander à Kadosh Baruch Hu Kapara pour toutes nos fautes? Et là, il donne une autre technique, regardez. Une technique vraiment, c'est quelque chose qu'on vraiment d'inattendu. La zote, c'est pour ça. Et tsa ayeutsa, dans l'art. Vous avez dans les mots? La ligne qui commence par karaoui, au milieu de la page, kouf samer gimel. La zote, c'est pour ça. Et tsa ayeutsa, que ma amar razal. Le conseil qui a été donné, que ma amar razal, comme le chachamim m'ont dit, kol hashomer shabbat ki ilchato mocha ilo akol avonotav. Quelque chose d'extraordinaire. La Gemara dit comme ça, que celui qui garde le shabbat, ki ilchato, comme sa halacha, ça veut dire qu'il est pointilleux dans la halacha du shabbat, on lui pardonne toutes ses fautes. C'est pour ça que c'est très important d'étudier la halakhot du Shabbat. Et vous avez remarqué certainement que dans la halakhot du Shabbat, toujours quand on fait des cours de Shabbat, c'est toujours très... on rentre toujours beaucoup dans les détails, très pointilleux, beaucoup plus que le reste. Vous avez remarqué ou pas? C'est pas par hasard. Pourquoi quand on fait des halakhot sur les tefillin, on ne rentre pas dans les petits détails? Il y a des détails aussi importants. Pourquoi dans le Shabbat, on parle le cas biscornu et des cas qui vont jamais arriver et comment on va faire et comment, etc. C'est pas par hasard. Parce que, étant donné que la Gemara a dit que Kol HaShomer Shabbat Kehilchato, tout celui qui garde le Shabbat Kehilchato, ça veut dire selon la stricte halakha. Mochalim dans le Kol Avonotav, on lui pardonne sur toutes ses fautes. Donc, c'est pour ça, il dit, l'Admor Zaken, l'Achen Kehilchato Daika. On voit bien que la Gemara a dit, pas seulement celui qui garde le Shabbat. Ça, bien sûr, celui qui garde le Shabbat. Celui qui garde le Shabbat Kehilchato. Comme ça, halakha, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec les détails. La reine dit l'admor Hazaken, c'est pour ça. Moutal al-kol echad ve'echan. Il incombe à chacun. Liot, baki, be'ilchata, rabata, le shabbata. D'être baki, ça veut dire de connaître un maximum de halachot de shabbat. Parce que, plus on va accomplir halachot de shabbat, et plus ça va être une kapara pour nos fautes. Donc vous voyez qu'en vérité, il y a, c'est-à-dire qu'on, pour l'admor Hazaken, le problème est très simple. S'il n'y a pas de tfila ensemble, c'est parce que le cœur est tordu. D'accord, donc si le cœur est tordu, il faut régler le problème. Donc on va régler le problème de plusieurs manières. D'abord, on va augmenter la cohésion dans la prière. On va augmenter la cohésion dans les projets, c'est-à-dire dans l'étude en commun. On va augmenter la cohésion dans les teilim. Et après, il faut réparer ce qu'il y a dans le cœur. Mais tu vas dire, mais attends, je fais tellement de fautes, c'est impossible. Tu me demandes de jeûner, etc. Je peux pas, c'est pas possible, j'arrive pas. Alors, dis-le de Mourazaken, il y a des techniques que les Chachamim nous ont données. Une des techniques, c'est quoi? C'est être pointilleux dans le Shabbat. Le fait d'être pointilleux dans le Shabbat, chaque fois que t'es pointilleux dans un Shabbat, ça efface beaucoup d'avérotes. Quand t'as Kadosh Baruch Hu voit qu'on est pointilleux dans un Shabbat, ça efface beaucoup d'avérotes. Vous savez pourquoi? Le Shabbat est comparé à Mashiach. On dit que Mashiach, c'est Yom Shekulo Shabbat, Mnucha Lechaya Olamim. De la même manière qu'on a 6 jours de la semaine et le 7e jour, c'est le Shabbat. De la même manière dans le monde, on a 6 millénaires et le 7e, c'est Mashiach. Donc, le Shabbat, c'est un mini Mashiach. C'est une mini ère messianique. Donc quand tu fais un bon Shabbat, c'est comme si t'as un Mashiach qui est venu. Quand Mashiach qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il efface tout, on recommence tout à zéro. Donc quand tu fais un bon Shabbat, tu repars dimanche, tu repars à zéro. Vraiment. C'est-à-dire, quand on arrive à passer un bon Shabbat, honnêtement, je vais être honnête avec vous, c'est difficile à le sentir le Shabbat. Mais vous savez comment on le ressent? Cette année, on a eu la chance d'avoir des séries de 3 jours de fête.
Ouais.
Et ça, on le sent. Qu'après 3 jours de fête, tu sens que t'es une nouvelle, tu sens que t'es, texte.
Ouais, mais, franchement, on était crevés.
Hein. Ouais,
il a raison, hein. On était, cassés, hein.
Tu sens que t'es une nouvelle personne. C'est-à-dire, tu sens que, quelque part, c'est le tour à apprendre.
C'est ce qu'il veut dire. Sur tous les femmes, hein, j'étais...
Je voulais dire dans le sens détaché de la réalité, détaché de la matière.
C'est envolé.
D'accord, voilà.
On a décollé.
C'est vrai.
Mais c'est difficile. Alors, c'est en ce sens que c'est.
Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est clair que c'est pas facile, même surtout pour les dames. Mais il y a ce sens que revenir dans la vie de tous les jours. Donc, te dit la Gemara que celui qui est makpid, celui qui fait pointilleux sur la lachot du Shabbat, mochalim dans kol avonotav, on lui pardonne sur toutes ses fautes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, ce que dit l'Admor Hazaken, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lachot dans Shabbat dans lesquels on est pointilleux, par exemple. On te dit que quand Shabbat va rentrer, il faut mettre les mains dans la poche pour voir s'il n'y a pas d'objet dans la poche. C'est-à-dire que, dans Shabbat, on est pointilleux plus que d'habitude. On te demande de t'assurer qu'il n'y a rien dans les poches. Et vous savez que normalement, chaque fois avant de sortir de chez soi, on met les mains dans les poches pour s'assurer que s'il y a un risque, on a mis quelque chose dans la poche, pour s'assurer qu'on n'a rien mis dans la poche. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps que l'Admor Hazaken avait même instauré aux gens de sa communauté de jamais rien mettre dans les poches pendant Shabbat.
Ah oui, c'est
parce qu'après tu sors. Il avait instauré comme ça. Je sais pas si ça a été gardé, j'ai pas vu après si ça a été gardé. Mais
souvent on fait attention à ça.
Parce que c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque, tu mets un truc dans une poche, après tu l'oublies.
Surtout dans la synagogue.
Surtout voilà. C'est-à-dire en général tu vérifies avant Shabbat, avant de sortir de la maison vendredi soir. Mais après pendant Shabbat, t'as mis un truc samedi matin, bon, t'as pas fait attention à un mouchoir, un truc comme ça, et c'est fini. Donc il avait instauré dans sa synagogue de rien mettre dans les poches pendant Shabbat. Comme ça il avait instauré. Si un jour vous allez à Bnei Brak, etc., et vous trouvez des mouchoirs par terre, vous étonnez pas. Dans la synagogue. Peut-être parce que voilà, ils voulaient pas mettre dans la poche, ou ils l'ont mis là.
Mais pourraient pas vous porter?
Oui, ils peuvent porter. Non, mais de manière générale, il est instauré de pas mettre. Pour s'habituer de pas mettre dans la poche.
Quand tu sors, avec un mouchoir, puis t'en aperçois, après trois pas, qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu
gèles. Alors, quand tu es dehors, bonne question. Quand
tu es dans la synagogue, tiens, mange, j'ai oublié mon mouchoir.
Si tu es dehors dans la synagogue, t'as oublié ton mouchoir.
Non, tu l'as dans la poche.
Tu l'as dans ta poche. Donc, tu continues à marcher. Tu reviens vers la synagogue et dès que tu arrives devant la porte de la synagogue, tu prends le mouchoir et tu le jettes vers la synagogue. Je vais t'expliquer pourquoi.
Vers la synagogue.
Expliquer pourquoi, parce qu'il y a deux interdits.
Et si t'en
bouches, non, je vais expliquer. Puisqu'on parle de la croix du Shabbat,
de
il a raison.
Tu le jettes à l'intérieur.
Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Il y a deux problèmes dans Shabbat. Premier problème, c'est que j'ai pas le droit de déplacer un objet de 2 mètres dans le domaine public. Oui. Ça veut dire que quand je suis déjà dans le domaine public, oui, je lève un objet, j'avance 2 mètres, je le repose dans le domaine public, je viens de faire un interdit. Oui. Si je marche et que je m'arrête, chaque fois que je m'arrête et que je repars, c'est considéré comme si j'ai levé l'objet, je posais l'objet, puisque l'objet a été levé et posé. Donc si tu m'as posé la question, tu as dit je suis sorti et je me suis rendu compte que j'ai le mouchoir. Si je m'arrête, c'est considéré comme si j'ai posé l'objet. Oui. Tu comprends?
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'on te dit qu'il ne faut pas t'arrêter. Tu t'arrêtes pas, tu continues à marcher. Comme ça, l'objet n'a jamais été posé. Ça, c'est un premier problème. Donc avec ça, on solutionne le premier problème. Maintenant, il y a un deuxième problème. C'est qu'on n'a pas le droit, même une aiguille, de la prendre et de la déplacer du domaine privé au domaine public. Même d'un centimètre.
On a le droit de le jeter dehors, en fait.
Donc, mais ça, l'interdit de la Torah, c'est seulement... L'interdit de la Torah, c'est seulement si tu le déplaces, si tu le transportes du domaine privé au domaine public et vice-versa, de manière habituelle. Mais si tu le fais de manière inhabituelle, c'est un interdit que par les Chachamim et pas de la Torah. C'est pour ça que j'ai donné la technique, comme tu as l'objet dans ta poche, si tu rentres avec cet objet-là, c'est de manière habituelle. Mais si tu le jettes, c'est de manière inhabituelle, donc avec ça, tu étais sauvé d'un interdit de la Torah.
Un autre cas pratique, tu roules un billet 500, tu fais comment ?
Même chose.
Non, tu ne vas pas le jeter dehors.
Non. Tu continues à marcher, tu arrives vers la Sina, tu m'appelles, d'accord?
Voilà. Moi je te réponds, je ne vais pas
poser certains auteurs. Il y en a qui c'est compliqué, parce que d'après, c'est une technique qu'on ne donne pas, parce que ça, c'est, dans certains cas, ça peut être considéré comme un rachouta yachid. C'est compliqué ça aussi. Des fois c'est carmélite, des fois c'est rachouta yachid.
Ah, il ne faut pas s'arrêter alors?
Ouais.
Moi je crois qu'il fallait s'arrêter justement.
Tous les trois pas.
Moi je m'arrête et je le mets par terre, mais j'ai pas le droit.
Surtout pas.
Ça veut dire que si tu
tu peux pas le mettre
et
que
t'as quelque chose
à la poche. Parce que quand tu t'arrêtes, t'expliquer c'est quoi le problème. Quand tu t'arrêtes et que tu l'as posé quelque part, tu viens de faire un interdit. Parce qu'il y a un interdit de le sortir du domaine privé au domaine public.
Moins de 2 mètres.
Tant que tu t'es pas arrêté, l'interdit est comme ça, il faut l'enlever du domaine privé, le poser dans le domaine public, ou vice-versa. L'enlever, le poser. Tant que tu t'es pas arrêté...
Non, mais si tu l'as seulement enlevé...
Juste ce... Voilà, justement. Tant que tu t'es pas arrêté, ça s'appelle que tu l'as pas posé. Les rachamim m'ont interdit, quand même. C'est pour ça que, même si je marche sans m'arrêter, j'ai pas le droit de prendre un objet d'ici et l'amener chez moi à la maison. Même que, théoriquement, Minatora, j'ai pas fait l'interdit si je me suis pas arrêté. Parce que Minatora, il faut que je m'arrête. Tant que je m'arrête pas, j'ai pas fait l'interdit. Mais... Là, étant donné qu'on est dans le Bediavad, parce que tu l'as déjà fait, t'es déjà sorti avec, il faut minimiser au maximum les interdits minatora. D'accord ?
Mais dis-moi, pourquoi il y a certains religieux qui, même dans des endroits où on peut porter, ils portent pas ?
Il y a plusieurs raisons. Enfin, moi, personnellement, je fais attention à ça. Ouais. Je porte pas même dans les endroits où on peut porter. Parce que, ouais, parce que d'abord, dans le Hérouv, il y a plusieurs types de Hérouv. Il y a deux Hérouv qui sont cachers d'après certains avis, d'après deux avis, ils sont pas cachers. Par exemple, le Hérouv, le fameux Hérouv qu'on fait avec le fil, d'après beaucoup d'avis, c'est pas cachers, il faut un vrai Hérouv physique. Avec un fleuve, par exemple, comme à Strasbourg, comme à Jérusalem. Comme à Jérusalem, ils ont le rouvre avec la muraille. Ah, c'est un rooftop, ça, la vieille ville. Mais...
À Strasbourg, ils ont
À Strasbourg, oui, c'est le... À Strasbourg, ils ont le
rouvre.
C'est le top, ça. C'est un rouvre bombe atomique. Mais avec ça...
Strasbourg,
ils portent. Oui, bien sûr,
Alors, l'île Saint-Louis, c'est pareil.
Alors, l'île Saint-Louis, c'est partout. Tu peux pas prendre la périph' ici.
Mais faut... Alors, mais...
Ça marche pas.
Oui, mais tu peux le traverser. Non,
sache que le Rav Pevner, à la Vache à l'Homme, il avait voulu faire un rouvre avec Chirac. D'accord? Et c'était passé dans un conseil de l'Amérique, etc. Et ça avait été refusé. Parce qu'il avait fait le calcul qu'avec le périph, il suffisait de faire passer des fils, d'accord. Et c'était vraiment pas compliqué. Hein. Mais bon, il fallait des travaux quand même, on finançait tout.
Ils ont pas voulu.
Les communautés étaient prêtes à financer, ils ont pas voulu. C'est religieux, et la laïcité est bénie.
C'est crétin.
On le fait le soir quand il y a personne. On va sans périph.
Alors, non, ta parole de faire sans permission. Ça marche pas. Alors, je voulais vous dire aussi, donc pour le Hérouf, tu vas poser pour répondre à ta question, Michael. C'est une première raison. Deuxième raison pour laquelle je porte pas, c'est parce que le rabbi avait dit que il faut, même dans les villes dans lesquelles on a le droit de porter, il faut habituer les enfants, peut-être pas chaque Shabbat, mais au moins il faut qu'ils sachent qu'il y a un concept qui existe de ne pas porter Shabbat dehors. Ouais, ça, de mes yeux, je l'ai vu très souvent. Des Israéliens qui sont nés dans des villes dans lesquelles on porte. Et quand ils arrivent en dehors des rats d'Israël, c'est une catastrophe.
Barbecue comme ça, ils ne voulaient pas comprendre qu'en France, vous ne pouvez pas porter.
Soit ils ne veulent pas, soit ils oublient, ils ne se rendent pas compte, etc.
Ils ne comprenaient pas, ils avaient
l'habitude. De mes yeux, j'ai vu.
Non, mais concrètement, toi, dans ton cas, tu as un bébé dans une poussette.
Non, alors voilà. Maintenant, voilà, justement. Alors, bien sûr, moi, je ne le fais pas pour aller à la synagogue. Par exemple, au lieu de porter mon talit, je le mets sur moi. Mais si maintenant, ma femme, elle a un bébé, je ne vais pas me mettre à rajouter une choumra pour lui imposer à cause de ça de ne pas aller à la synagogue. C'est ça. D'accord, donc là, on prend la poussette, on y va. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Alors, venez, on va terminer avec ça, comme ça, on va terminer avec ça. Donc, en tout cas, l'Admor HaZaken nous encourage ici, très important, d'être pointilleux dans la halakha de Shabbat. Puisque ça, ça nous permet d'être mochel. Vegam. Isaher me'od, shelo lasuar, sum sicha betela chazve shalom. Puisqu'on a parlé de l'importance de garder le Shabbat, il nous dit, le Shabbat, mis à part le fait qu'il faut garder le Shabbat comme il se doit, il faut également s'efforcer de ne pas avoir de discussions futiles pendant le Shabbat. Pas parler de football et de stars.
Demain, il va perdre.
C'est pas attention. Il y a des choses interdites, il y a des choses qui sont pas interdites.
Tu peux parler de
Shabbat, j'ai pas le droit de parler du business, mais j'ai le droit de parler d'autres choses qui sont pas du business. J'ai le droit. J'ai le droit de parler, par exemple, des nouvelles du monde. C'est le roi, c'est moutard. C'est dit là de Mourazaken. Si tu veux être mochel tes fautes et si tu veux rentrer dans la catégorie de celui sur lequel on dit que on lui pardonne ses fautes parce qu'il a fait le Shabbat, kehil chata, ça veut dire selon la stricte halakha, le Shabbat, faut faire attention. C'est comme si que Mashiach est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas avoir de discussions futiles. Ça veut pas dire qu'on parle pas avec ses enfants, mais ça veut dire, voilà, qu'on appelle des discussions bêtes et futiles. Biyot modaatzot leyodechen, ki bechol amidzot eshpimu dechitzonius. Je vous allez voir ce qu'il va dire ici. Il dit comme ça. Il dit que dans chaque mitzvah, c'est connu ce qu'on explique à l'Pikabala, et ça sera le mot de la fin, que dans chaque mitzvah, il y a un côté extérieur et un côté intérieur. C'est-à-dire, il y a l'aspect, on va dire, superficiel, et il y a l'aspect profond. L'aspect superficiel de la mitzvah de Shabbat, c'est quoi? Vechitsenut mais à Shabbat. C'est quoi l'aspect officiel du Shabbat, c'est quoi? On travaille pas, le repos, Razak. Donc, Shvita Masi Agashmit, on se repose de ne pas travailler. Kemo Shabbat Hashem, mais Asot Shamaim Vares Gashmin. De la même manière que Dieu s'est reposé et qu'il a arrêté de construire le monde. De la même manière, nous aussi on se repose. Ça, c'est le côté officiel de Shabbat. Le côté, pas superficiel, mais voilà, mais le côté, la raison officielle de Shabbat. Mais quel est ce qu'il y a derrière les coulisses? Knimit à Shabbat. Quel est le sens profond du Shabbat? Le sens profond du Shabbat, c'est que le Shabbat, c'est un moment dans lequel on revient vers sa source, on revient vers sa personne. Les kavana bitfilat à Shabbat, ou betalmud Torah, les dovka b'ashem echad. Comme on dit chez Shabbat, l'Adonai Elohecha. Comme on dit dans le Kiddush, on dit que vayam hashivi, le septième jour, Shabbat, c'est un Shabbat, l'Hashem Elohecha pour Hashem ton Dieu. C'est-à-dire quoi, c'est un Shabbat pour Dieu? C'est un Shabbat, c'est tout, on se repose. Non. C'est un Shabbat pour Dieu. C'est-à-dire que c'est vrai que extérieurement, le Shabbat, c'est un moment dans lequel on se repose, on mange bien, on dort bien, etc. Ça, c'est extérieurement. Mais intérieurement, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est un moment dans lequel on se donne un peu plus pour la tefila, comme on avait fait des cours dans lesquels on avait expliqué que la tefila du Shabbat doit être meilleure que la tefila de la semaine. On étudie le Shabbat plus qu'on étudie pendant la semaine. Pourquoi? Parce que le sens profond du Shabbat, c'est ça. C'est quoi le vrai repos? Le vrai repos, c'est quand, comme on a parlé pour ceux qui étaient là Shabbat de Fabringen. Je sais pas pourquoi j'en ai parlé d'ailleurs. Alors, le vrai repos, c'est quoi? Le vrai repos, c'est quand une personne, le Shabbat, il revient à sa personne. Ça veut dire que son vrai repos, c'est quand il va faire une introspection personnelle et que il va prendre du temps pour faire une meilleure tefila, pour mieux s'occuper de sa famille, pour mieux parler avec sa femme, mieux parler avec ses enfants, mieux étudier la Torah. Il va prendre du temps pour faire tout ça, et ça, c'est le vrai Shabbat.
Et la sieste de tout ça, du
dimanche. Eh ben, la sieste, c'est pour dimanche. D'accord? Voilà. Eh oui, la sieste, c'est pour... C'est sérieux
dimanche,
les enfants. Pour ceux qui étaient... Pas tout le monde était là au Fabringen Shabbat. Shabbat, on a parlé...
Il y a trop de bruit,
Shabbat, on a parlé au Fabringen. Mais il faut venir autour de moi, comme pour la tefila. Alors...
J'étais juste derrière ton père.
Shabbat, on a parlé de l'importance du repas du Shabbat. Le repas du Shabbat avec les enfants. Pas de la bouffe. Pas de la nourriture. L'importance de prendre le temps avec les enfants. De leur demander qu'est-ce qu'ils ont appris la semaine à l'école. Quel paracha ils ont appris. Ils te racontent la paracha. De les prendre sur tes bras. Un à son tour. D'accord? Un chacun à tour de rôle. Lui donner un bonbon. Lui donner de l'attention. Chose qu'on peut pas forcément faire pendant la semaine. On devrait le faire tous les jours de la semaine. Mais toute la semaine, peut-être qu'on peut pas le faire comme il se doit. Le Shabbat, en vérité, on est celui qu'on aurait voulu être toute la semaine. C'est-à-dire, c'est pas parce que, c'est pas hypocrite, tu dis, mais attends, toute la semaine je suis pas comme ça, pourquoi tout d'un coup le Shabbat je suis comme ça? Non. Parce qu'en vérité, le Shabbat, je suis celui que j'aurais voulu être toute la semaine. Toute la semaine, j'aurais aimé faire une bonne fila, étudier la Torah, m'occuper de ma femme, de mes enfants, j'aurais aimé être comme ça toute la semaine. Bon, toute la semaine, je suis pris par le travail, je rentre, je suis crevé, je me lève, j'ai pas envie de me lever, d'accord? D'accord? Et toute la journée, je suis pris par le travail, donc du coup, peut-être que la chose se passe pas comme il se doit. Le Shabbat, les choses se passent comme je vais me comporter comme j'aurais voulu que toute la semaine se passe. Et c'est ce qu'il dit la Tzilat Mor HaZaken, que dans chaque mitzvah, il y a l'aspect superficiel, extérieur, l'aspect intérieur. L'aspect extérieur du Shabbat, c'est on se repose. L'aspect profond du Shabbat, c'est quoi? Shabbat, l'Hashem Elokecha. Le Shabbat est dédié pour Akadash Baruch Hu. Vezoi prinat zachor veshamor. On dit que dans le Shabbat, il y a zachor et shamor. Souviens-toi et garde le Shabbat. Garder, c'est plus physique. Ça veut dire garder le jour du Shabbat, ne pas travailler, d'accord? Ça, c'est plus physique. On travaille pas, on s'assure qu'il y a un repas qui va être préparé, on s'assure d'aller à la synagogue. Ça, c'est l'aspect physique du Shabbat. Ça, c'est l'aspect shamor. Mais il y a l'aspect zachor. Zachor, c'est dans la tête. Souviens-toi du jour du Shabbat. Ça veut dire, c'est un travail d'introspection dans la tête, de se poser la question, qu'est-ce que Dieu représente pour moi? Qu'est-ce que je fais pour Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je fais pour ma mission dans la vie? Donc, il y a Shvita Midiborim Kashmi, qui est Moshe Shabbat Hashem Yud Bamarosh Shinivrubam Shemaim Varez Kashmiim, qui Zel Umadze, que de la même manière que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, s'est arrêté dans le monde de créer le monde, moi aussi, j'ai fait une introspection, je m'arrête, je fais un Cheshbon. Je sais pas qui a dit le mot introspection tout à l'heure, c'est toi, Dan? De faire une introspection pour essayer de voir où j'en suis dans le monde. Et même Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, quand il s'est arrêté, vous savez pourquoi il s'est arrêté? Kaviachol, si on peut dire. C'est pour dire, bon, maintenant on a créé, où on va maintenant?
Qu'est-ce qu'on fait
maintenant? Où on va? Allez, on a construit, bon, où on va maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Mazel Tov, on a créé, où on avance
pas? C'était pas pour laisser l'équipe jouer? C'était pas pour laisser l'équipe jouer?
Non, c'est pour faire une introspection, pour nous montrer qu'on fait une introspection.
On a vu comment ils ont joué.
Et ça, c'est pour ça, hein, je pense, que c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être pour ça que l'Admor Hazaken termine le Tania avec ça, on s'arrête là pour aujourd'hui, que pour nous montrer que, Baruch Hashem, on est plusieurs années dans lesquelles on a étudié. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est voilà, maintenant, où on va maintenant? Où tout ça, ça nous amène? Tout ça nous amène à devoir réviser. Alors maintenant, juste, je voudrais besoin juste 2 minutes de votre temps. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, j'ai envie de marquer le coup sur le fait qu'on a terminé le Tania. La semaine prochaine, on va pas faire un cours comme cette semaine. On va faire un cours qui est plus style Fabringen. Avec des histoires sur l'importance du Tania, etc. Alors bon, j'essaie de réfléchir, mais je demande votre avis. Comment, d'après vous, on devrait fêter le fait qu'on a terminé le Tania?
Un gâteau d'anniversaire.
Alors, plusieurs
idées. Qu'est-ce que
vous en pensez?
Une pièce montée. Lui, il veut se faire des guizzi merguez.
Moi, pas du tout. Mais arrête, rien
ça. Du Kaila.
Ouais.
Il a dit dans le sud oriental.
Un repas chaud. Sucré, salé.
Est-ce que ça peut être faire un repas? Ou bien ça peut être. Moi, j'ai pensé peut-être.
Non, avec des histoires. Mais c'est ce qu'ils ont fait à Sinaï, moi, avant, j'avais à Sinaï.
Ils avaient terminé le Tania?
Alors, je sais plus, j'avais fini.
Ah, il
y avait Bezrat
Hashem. J'ai pas entendu. Et il y avait donc, Rav Pesner, pas Yosef, l'aîné. Un peu plus,
Aram Baou.
Baou.
Tu vas sortir avec des bleus.
Il y avait donc, des boissons alcoolisées. Il y avait des repas.
Alors, regardez, ce que j'ai pensé. Peut-être, parce qu'il y a plusieurs qui étaient venus la dernière fois quand on avait fait jeudi soir Fabringen.
Ils racontent les plaisirs.
J'ai vu que ça avait plu. D'accord. Alors peut-être, dis-moi ce que vous en pensez.
Non, c'est pas mal.
J'ai pensé peut-être chercher cette semaine quelqu'un qui, un rav qui, on va dire quelqu'un qui a l'habitude dans le Tania, d'accord, qu'on invite, qui nous passe à Fabringen, c'est pas très long. On commence à 20h30 jusqu'à peut-être 22h, peut-être un petit peu plus tard.
Dans le Tania.
Voilà, je vais essayer de réfléchir. Peut-être faire ça autour d'un repas, autour de quelque chose comme ça. Enfin, un repas, on discutera déjà. Mais de manière à marquer le coup. Parce que c'est
après la Dafina, on verra avec
Eric. Non, savoir ce que vous voulez comme repas.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est bon.
Est-ce qu'il y a deux idées?
Non, c'est bien.
Pas
grave. Jusqu'à lundi.
Bon, alors, ceux qui veulent participer, ils regardent avec David. D'accord? Ceux qui veulent participer, regardent
voir que.
Voilà.
Sinon, on fait comme ça, des clouches. Ce qui est important, c'est le.
Je vais faire un truc big.
Non, mais il a dit Shamor Vezachor.
Voilà, Shamor Vezachor.
Regarde, et tu te souviens.
C'est Big Mac.
Hein?
Non, Big Mac.
Non, on va
chez
Sarko, on ramène.
Ne me choque pas, hein.
Non, déjà, on peut faire Fabringen. Déjà, dans ce Fabringen, il faut inviter. Regardez. Déjà, dans ce Fabringen, je vais inviter toute la communauté. On va inviter surtout ceux qui étaient avec nous pendant le différent cycle. Bon, il y a quelques-uns qui sont plus là. D'accord? Il faut inviter aussi peut-être même vos enfants, s'ils peuvent venir, les grands-enfants, etc., à venir. Ça va pas durer très longtemps. On va s'assurer que ça dure pas très longtemps. Mais à mon avis, c'est